Transculture, en français dans le texte. La dictée de Rachid Santaki.
Mettons que je dise, il faut que je sois, en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva?
C'est du présent du subjonctif.
Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là.
Il fallait que je sois.
Il fallait que je... Kumba.
Sois.
Fus.
Oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je lui dirai il fallu que je sois fus.
Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprendre d'abord la phrase avant de.
Il fallait que je sois fus en forme.
C'est une concordance.
Mais ça se dit pas dans la vie, je sais pas. Hein.
La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Mais commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà.
Et vous aurez reconnu François Bégaudeau. Entre les murs, le film de Laurent Contet sorti en 2008, adaptation de son roman éponyme. Il est ici, François Bégaudeau, professeur et doit donner cette magistrale leçon d'imparfait du subjonctif. Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous êtes fort en imparfait du subjonctif?
Bonne question.
Et en imparfait de l'indicatif?
Surtout en imparfait de l'indicatif.
Très bonne question. Bonjour à notre invité Charles Pépin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et romancier avant d'être fort en tout, et notamment en subjonctif, et pas seulement. Votre nouvel essai s'appelle La Rencontre, une philosophie. Il vient de paraître chez Alary Éditions, c'était à la mi-janvier. Cette rencontre avec l'orthographe, est-ce qu'elle a eu lieu dans votre vie?
J'ai pas l'impression qu'elle ait eu lieu de façon très importante. C'est quelque chose qui m'a jamais semblé crucial, au sens où j'ai même trouvé parfois, même en tant que professeur, qu'il y avait des fautes d'orthographe intéressantes, belles même. Donc je suis pas d'ailleurs très bon en orthographe. J'ai souvent aimé en fait repérer du talent analytique chez des élèves qui faisaient des très grosses fautes d'accord ou d'orthographe.
Bon, on va essayer de mesurer, de repérer votre talent à vous dans cette dictée choisie, sélectionnée pour vous par Rachid Santaki. Quel sera le texte, l'auteur que vous avez retenu pour aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais donc vous lire un extrait de L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert.
Voilà, L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Alors, comment ça va se passer? Charles Pépin, je vous redonne les règles pour vous et pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste. Sur France Culture ou via le Facebook en vidéo, le Facebook de France Culture. Voilà, pour regarder Rachid Santaki nous raconter, nous dicter ces mots de Flaubert. La première lecture, c'est pour vous mettre un peu le texte dans l'oreille. La seconde lecture, c'est pour noter. Là, il faut bien délier stylos et poignets. Et la troisième lecture, ce sera une lecture correction que nous ferons ensemble avec Rachid et vous. On commence avec vous, Rachid Santaki, cette première lecture, s'il vous plaît.
Le soleil dardait d'aplomb en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en deux sillons qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés. Et l'ennui, vaguement répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. À part quelques bourgeois, aux premières, c'étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final.
Est-ce que vous êtes prêt à écrire maintenant, Charles?
Je suis prêt.
Ouais, bon.
Ouais, j'ai un stylo.
Et une feuille. On n'écrit pas sur
une
la table.
Et une feuille, ouais, ouais.
Très bien. Bon, bonne dictée à tous, c'est parti.
Le soleil dardait d'aplomb, virgule. Le soleil dardait d'aplomb, virgule. En faisant reluire les gabillots de fer. En faisant reluire les gabillots de fer. Autour des mâts, virgule. autour des ma, virgule, je répète pour les plus jeunes. Le soleil dardait d'aplomb, virgule, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, virgule. Les plaques du bastingage, les plaques du bastingage et la surface de l'eau, point virgule. Les plaques du bastingage et la surface de l'eau, point virgule. Elle se coupait à la proue. Elle se coupait à la proue en deux sillons, virgule. Elle se coupait à la proue deux sillons, virgule. Oui, monsieur Pépin ?
Non, juste un truc. En fait, si je fais une rature maintenant parce que j'ai compris un truc, comment vous aurez la preuve que je l'ai fait maintenant et pas plus tard ?
Parce que vous êtes un homme honnête.
C'est ça. Elle se coupait, je viens de comprendre. Elle se coupait à la proue en deux sillons, d'accord ?
Qui se déroulait jusqu'au bord. Qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. Donc je répète, elle se coupait à la proue en deux sillons, virgule, qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. Et fin de la dictée pour les écoliers. Qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. À chaque détour de la rivière, virgule, virgule, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. Point. Le même rideau de peupliers pâle, point. La campagne était toute vide, point. La campagne était toute vide, point. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule. Et l'ennui, vaguement répandu, virgule, semblait alanguir la marche du bateau. Je répète, et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point. Et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point. Ça va, monsieur Pépin ?
Ouais, je suis. Très je bien. Suis là.
À part quelques bourgeois, aux premières virgules, c'était des ouvriers, Des gens de boutique. Des gens de boutique. Avec leurs femmes et leurs enfants. Point. Je répète cette dernière phrase. À part quelques bourgeois, virgule. Aux premières, virgule. C'était des ouvriers, virgule. Des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final. Voilà pour la seconde lecture, Olivia.
Notre cobaye, est-ce que ça va au niveau du temps aujourd'hui?
Ouais,
est-ce que vous avez un peu plus de temps pour vous relire? Est-ce que...
Moi, ça va. Je suis dans le timing, là.
Alors, l'éducation sentimentale, pendant que certains finissent de se relire, on peut quand même rappeler que ce roman de Flaubert de 1869, ce roman donc du 19e, est à la fois un roman d'apprentissage pour Frédéric Moreau et un grand roman d'amour quand même, hein, puisque notre Frédéric est un héros romantique. Il vient à ce moment-là de quitter le Havre, il navigue vers Montreux, c'est un voyage sur la Seine. Un peu ennuyeux, et on retrouve ces adjectifs, ces qualificatifs dans ce texte, dans cette campagne qu'il voit et qu'il juge vide et peu convaincante peut-être pour ses yeux, quand soudain, Charles Pépin, il va rencontrer Madame Arnoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase célèbre.
Ce fut comme une apparition.
Mais voilà, exactement. Ouais. On y va pour la correction. Le soleil dardait d'aplomb. Alors, darder, verbe du premier groupe, comment l'avez-vous écrit, Charles Pépin? On est à quel temps, là?
À l'imparfait.
L'imparfait de quoi? Du subjonctif, comme disait tout à l'heure, entre les murs.
Pas du tout, mais là, François Bégodeau. Non, c'est un imparfait classique, un imparfait normal. Donc, j'ai écrit D-A-R-D-A-I-T.
Très bien.
Très bien. Aplomb?
D'aplomb, A-P-L-O-M-B.
Très bien. Je vous laisse continuer, Rachid Santaki.
En faisant reluire les gabillots de fer. Comment avez-vous écrit gabillot, monsieur Pépin?
Alors, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, je l'ai senti comme ça, G-A-B-I-2-L-O-T-S.
Très bien. Et la définition, c'est une cheville de bois ou de métal servant à amarrer les manœuvres.
D'accord.
Donc, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts.
Alors, les mâts des bateaux.
Alors j'ai écrit M-A-T-S, mais j'ai mis un accent circonflexe sur le A sans être totalement sûr.
Mais c'est juste, en tout cas.
Très bien. Coup de
chance. Le chapeau, comme on disait.
Exactement.
Quand on était petit.
Virgule, les plaques du bastingage.
Bastingage, c'est ça que vous voulez?
Exactement.
Alors bastingage, j'ai hésité. J'ai fait B-A-S-T-I-N-G-U-A-G-E. Et je suis pas sûr du U après le G.
Donc normalement, on mettrait le U s'il y avait un E ou un I pour faire ce son G.
Mais c'était visuel. Ouais. D'accord. Bon, j'ai fait une faute. Donc j'entoure le U comme un prof.
On raye le U, exactement. Oui, là, vous l'entourez en rouge.
En vert, ça ira aussi. Ça, j'ai un rouge qui est là. C'est.
Les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en deux sillons. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qui vous a posé question? La proue, peut-être?
P-R-O-U-E, ça m'a pas posé de question. En revanche, au début, comme je comprenais pas le sens au tout début, je pensais que ça pouvait être les plaques. Donc, j'avais mis « elle se coupait » au pluriel. Après, j'ai compris que c'était la surface de l'eau qui se coupait. Donc, je l'ai rectifié au singulier.
Exactement, et c'est ça. Singulier, L-E-2-L-E, se coupait, C-O-U-P-A-I-T.
Si vous voulez, j'ai toujours eu une tendresse pour ceux qui avaient une difficulté avec l'orthographe, parce qu'il me semble que parfois, elle est liée à l'imagination. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui n'a pas vraiment de raison d'être, mais finalement, il y a des élèves qui ont plus d'imagination et qui font plus de fautes d'orthographe parce qu'ils s'en tiennent moins au réel évident. Et en ce sens, j'ai de la tendresse pour eux.
Mais c'est vrai qu'il faut y aller parfois juste à l'intuition ou quand même tenter de retrouver le sens des phrases. Alors, c'est pas évident quand il y a des mots qui nous échappent pour essayer de comprendre si on ne sait pas ce qu'est bastingage, si on ne sait pas exactement ce qu'est la proue du bateau. Et ce qui va se dérouler, alors justement, le déroulé qui suit, avec quoi vous l'accordez?
Avec les deux sillons, dont je l'ai mis au pluriel, qui se déroulait A-I-E-N-T.
C'est juste jusqu'au bord des prairies. C'était la fin de la dictée pour les écoliers. Bord au singulier. A-U, plus loin, B-O-R-D. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. Quelle difficulté, Rachid Santaki, éventuellement, dans cette phrase?
Pas de difficulté particulière. Est-ce que l'accent circonflexe sur pâle est évident?
Non, enfin moi je l'ai mis, mais j'étais pas totalement sûr. J'ai eu un petit doute.
Alors, un chapeau sur pâle.
Voilà.
Peuplier, ouais. P-E-U-P-L-I-E-R-S, pâle, P-A, accent circonflexe.
Je me suis souvenu de la couverture, la couverture d'un polar, je crois que ça s'appelait les renards pâles. Et c'est ça, hein, je me suis souvenu qu'il y avait l'accent.
Alors,
j'ai eu un petit doute.
Voilà. C'est Rachid, l'auteur de Polar, dans ce studio. Je ne sais pas si vous avez lu Les Renards Pâles, non?
Non, je n'ai pas écrit encore non plus de...
de Renards Pâles. On en retrouvera peut-être une palitude dans votre prochain titre de roman. La campagne était toute vide. Alors ce « toute », vous l'écrivez comment? Est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est un accord prononcé par Rachid ou est-ce que vous le féminisez?
Moi j'ai mis T-O-U-T-E.
Très bien.
Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés. Alors, qu'est-ce qui est arrêté? Et comment l'écrivez-vous, Charles Pépin?
C'est les nuages blancs, donc ils sont au pluriel. Donc A, 2R, E, accent circonflexe, T, E, accent aigu, S. Enfin, il me semble quand même qu'on pouvait douter de deux. Enfin, il y en a peut-être deux, D, E, U, X.
Effectivement, tu as pensé à ça lors de la lecture. Ouais.
Moi, j'ai mis D, E, mais je pense que les deux sont possibles.
Et deux D, E, ouais. Il y avait dans le ciel deux petits nuages blancs arrêtés et l'ennui vaguement répandu. L'accord se fait avec quoi pour répondu, selon vous?
Avec l'ennui. C'est l'ennui.
Exactement. Donc au singulier.
Oui.
Répandu, R-E, accent aigu, pardon, P-A-N-D-U. Semblait à languir. On se continue dans cette phrase pas évidente. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés et l'ennui, vaguement répondu, semblait à languir la marche du bateau. Aïté pour le verbe sembler. Quel est le sujet?
C'est l'ennui.
Toujours. À languir, comment l'écrivez-vous?
A-L-A-N-G-U-I-R.
Et voilà, et là le U était carrément mérité. La marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore, peut-être sur insignifiant, est-ce qu'une question s'est posée?
Non, mais en revanche, je suis surpris de alanguir, je ne le voyais pas comme un verbe transitif comme ça.
Pourquoi?
Ben, je suis alangui, c'est un adjectif. S'alanguir, mais alanguir la marche,
du bateau. Ouais. Ouais. C'est vrai
C'est ça. En tout cas, je pense qu'on ne l'utiliserait plus comme ça aujourd'hui.
Et c'est souvent aussi employé comme un adjectif, cette idée d'être alangui dans ce sens.
Et insignifiant, pour vous répondre, I-N-S-I-G-N-I-F-I-A-N-T.
À part quelques bourgeois, voici vos bourgeois. Bourgeois, comment l'écrivez-vous?
B-O-U-R-G-E-O-I-S.
Alors, il y a toujours un S. Quelques?
Q-U-E-L-Q-U-E-S.
Oh, vous êtes parti pour un sans faute, ça m'agace.
Mais non, j'ai fait une faute tout à l'heure à Bastingale.
Ah oui, c'est vrai, très bien. Oui, oui.
Olivia.
Non mais après, on est complexé, on n'ose plus. Alors, aux premières...
C'est pas les premières classes?
Avec une majuscule. Vous l'avez écrit comme telle?
Non, j'ai pas mis de majuscule.
Voilà.
C'était les premières classes?
Effectivement, ce sont les premières classes. Et aux premières classes, du coup, on a une majuscule à première.
Ah bon, je l'avais pas mise. Vous voyez, Olivia est rassurée.
Oh, bon, je sais pas s'il faut compter ça pour une faute. C'est déjà bien d'avoir compris à quoi première était rattachée. C'est vous qui choisissez, c'est votre dictée, Charles Pépin. C'était des ouvriers. Ouh là là, attention. C'était.
Alors ça, j'ai jamais su. Moi, j'ai toujours autorisé à mes élèves les deux écritures, soit le singulier, soit le pluriel. Moi, je l'ai mis au singulier.
Eh ben, c'était au pluriel.
Mais je crois que la règle, c'est le pluriel, en fait, et qu'il y a un usage à accepter qui est le singulier aujourd'hui, c'est ça?
Alors, je vais lire la règle. Devant un substantif pluriel, on utilise généralement la forme plurielle, ce sont ou c'était. On trouve aussi parfois le singulier c'était ou c'était. Cette forme est tolérée, mais elle est considérée comme plus familière. Il est donc préférable de l'éviter dans les textes de style soutenu.
D'accord. Ouais, donc, c'est le cas. Voilà. Donc, j'ai une faute.
Donc le substantif ici, c'est ouvrier.
Ouais.
C'est ouvrier, c'est des gens aussi, pour des gens de boutique qui arrivent après. Devant un substantif pluriel, on utilise plutôt la forme plurielle. Hein. Ce sont. Ouais, ça marche peut-être pas mal avec ce sont aussi. Hein. À part quelques bourgeois aux premières classes, ce sont des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Et sinon, ça aurait fait en plus familier, à part quelques bourgeois aux premières classes, c'est des ouvriers, des gens de boutique. Ce son, ça sonne pas si mal, non? Quand on repasse au présent,
Charles Pépin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est plus joli, hein, je suis d'accord.
C'était des ouvriers, donc avec un S au pluriel, des gens de boutique, boutique au singulier, avec leurs femmes et leurs enfants. Femmes, vous le mettez au pluriel ou c'est les parents, leurs parents?
Moi, je l'ai mis au pluriel.
Et ben, c'est juste avec leurs femmes et leurs enfants, tout au pluriel. Voilà pour cette dictée. 2 fautes et demie pour vous, Charles Pépin, si j'ai bien noté.
Alors cela dit, ça m'a rappelé quelque chose. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de rencontre très forte avec l'orthographe. En fait, j'étais un peu amnésique. Parce que finalement, de faire la dictée, là, ça m'a projeté, je sais pas, 40 ans ou 35 ans en arrière. Et ça m'a rappelé qu'en fait, j'avais des émotions fortes pendant les dictées. Un moment de concentration, et puis comme j'adore la langue française aussi parfois, de grande attention, quoi, voire d'émerveillement. Et donc, finalement, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça m'a rappelé quelque chose d'assez fort, en fait.
Plutôt de l'émerveillement que du stress, ça, c'est...
Non, pas du stress du tout. Ouais. Une sorte de tension positive, quoi. En fait, d'attention, je dirais. Stress, non.
Pour vous, Charles Pépin, puisque vous signez un essai sur la rencontre, cette philosophie de la rencontre, est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres par ou dans les livres?
Ah oui, bien sûr. Oui. Je me souviens notamment de la rencontre avec Dumas, le comte de Monte-Cristo, quand j'avais 12-13 ans. Et notamment une scène qui me revient dans une espèce de grotte avec du haschich, quelque chose qui me paraissait complètement onirique. Et puis j'ai eu des rencontres très fortes avec... avec Camus, évidemment, avec des écrivains.
Et Camus, vous le rencontrez à quel âge?
Alors Camus, je l'ai rencontré en première.
Ça passe par l'école, hein?
Ouais, ça passe par l'école. Je l'ai étudié en français. Je suis même tombé dessus à l'oral du bac français. Et j'ai eu un coup de foudre total pour l'étranger, que je me suis mis à lire, relire. Je crois que j'ai dû le lire plus de 30 fois. Et c'est seulement au bout de la, je sais pas, 20e lecture, et je pense au bout de 20 ans, qu'en fait, j'ai découvert que c'était, d'après une légende familiale, mon grand-père, qui est donc une partie de ma famille vient d'Oran, qui avait raconté à Camus, dans le bar où ils avaient leurs habitudes, en fait, le fait divers qui a inspiré l'étranger. Alors ensuite, je suis allé vérifier dans des livres sur les Français d'Algérie, et visiblement, c'est véridique. Et donc, c'est marrant parce que finalement, je rencontrais, en fait, ma propre histoire qui avait été en partie occultée, en tout cas, qu'on m'avait jamais racontée. Puisque moi, je suis né à Paris, enfin dans l'Ouest parisien, à Boulogne. J'ai grandi très 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 loin de l'Algérie et de son soleil. Mais finalement, j'ai compris rétroactivement que si ce texte m'avait tant touché, parce qu'en fait, il me parlait d'une partie de mon histoire, quoi, que je connaissais pas.
Vous nous racontez dans ce livre, Charles Pépin, comment la vraie rencontre nous modifie. Hein, c'est peut-être une de ses particularités. Est-ce que c'est cette nouvelle société du sans-contact, la question est prévisible, mais qui vous a donné envie, vous, de réfléchir à cette idée de rencontre, ou est-ce que le projet était parti avant?
Non. Le projet était parti avant. En fait, ça fait des années que j'étais très surpris, en étudiant tous les philosophes de l'altérité du XXe siècle, de cette espèce d'évitement du mot « rencontre ».
Remplacé par quoi?
Par exemple, pour Lévinas, il parle de responsabilité devant le visage de l'autre. Sartre parle d'intersubjectivité. Freud d'illusion de rencontre, au fond. Et il y avait un philosophe qui les a tous influencés, qui est Martin Buber, qui lui a clairement dit que la vraie vie est rencontre. Donc j'avais eu, en fait, depuis longtemps, envie de revisiter toutes ces philosophies de l'altérité, de la responsabilité, de la morale, de l'intersubjectivité, en essayant de faire ressortir une sorte de non-dit, en fait, qui est que la vraie vie est rencontre, c'est-à-dire qu'au fond, on peut pas être humain sans rencontrer autre chose que soi. Et donc c'était bien avant la société du sans-contact.
C'est intéressant, parce que ça veut dire que pour les philosophes qui vous rejoignent dans cet essai, la rencontre n'était pas un impensé, c'était un non-dit, comme vous dites. Elle était là, mais elle apparaissait toujours à la marge.
Hein, exactement. Mais c'est juste le mot, en fait. Ouais. C'était pas un impensé, parce qu'évidemment, ils en parlent tous, mais c'est un mot étrangement évité. On parle d'expérience de l'altérité, dans un geste un peu néo-hégelien. Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, il y a un mot du langage courant qui dit beaucoup plus simplement cette espèce de heurt, finalement, on se retrouve en contact, justement, contre quelqu'un de différent. Et c'est cette expérience de l'altérité qui dérange. Et dans une époque comme aujourd'hui, où on veut pas être dérangé, on veut être bien tranquillement installé dans son identité, voilà, mais il semblait nécessaire de m'opposer à cette philosophie d'identité pour dire que quand on rencontre autre chose que soi, on devient soi-même autre chose que ce qu'on était, en fait.
Et c'est pour ça qu'on parle peut-être souvent à tort, d'ailleurs, ou pas forcément à juste titre, des bonnes ou des mauvaises rencontres, hein, de celles qui nous grandissent en apparence, contrairement à celles qui nous heurtent, mais dans le mauvais sens ou dans le bon sens du terme, de celles qui nous blessent. Vous rappelez et vous insistez sur le fait qu'il faut vraiment une part d'inattendue aussi pour que la rencontre fonctionne. Hein.
Je pense que la rencontre n'est rencontre que de l'inattendu. C'est-à-dire que si vous rencontrez ce que vous attendiez, Ça s'appelle pas une rencontre. Ça s'appelle une anticipation, une prévision, de la gestion, ou même une projection. Et à partir du moment où il y a un réel qui n'est pas conforme à l'attente, alors il y a rencontre. D'ailleurs, on peut faire un petit exercice mental. Imaginez que vous visualisiez quelqu'un que vous voulez rencontrer, avec des caractéristiques très précises, physiques, intellectuelles, sociales, etc. Et imaginez que la vie vous offre de rencontrer cette personne qui correspond exactement, mais exactement, essayez de l'imaginer, point par point, à votre attente. Mais je crois qu'au fond, il n'y aurait pas de rencontre.
Il y aurait quoi à la place ?
Il y aurait la poursuite d'une existence qui n'est sans bifurcation. C'est-à-dire que la rencontre, c'est toujours l'accueil d'une surprise et à laquelle je fais une place, quoi.
Et c'est un échange.
Alors, c'est pas nécessairement un échange, hein. Pour reprendre votre première question, moi, par exemple, j'ai beaucoup rencontré Emmanuel Carrère en lisant ses livres, et notamment Le Royaume, et puis d'autres, mais lui, il ne m'a pas rencontré. Je veux dire, il ne faut pas exiger de la rencontre une symétrie. C'est très intéressant d'assumer que les choses ne soient pas symétriques. Et d'ailleurs, je pense que très souvent, les gens s'interdisent une rencontre parce qu'ils voudraient une réciprocité. Par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui s'interdisent de rencontrer un professeur parce qu'ils se disent que pour le professeur, ils sont simplement 1 sur 30 ou sur 40. Et du coup, ils se coupent à l'expérience de la rencontre. Et je pense que dans la vie, il y a beaucoup de très belles choses qui sont asymétriques. Par exemple, dans la gratitude, vous pouvez dire merci à quelqu'un qui vous a fait un tout petit cadeau et vous lui dites un énorme merci. Ou alors, dans le pardon, vous pardonnez à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et ben, il y a souvent de l'asymétrie. Et ben, je crois que dans la rencontre, en fait, c'est pareil. C'est vraiment une question que je me suis posée en écrivant ce livre. J'ai failli en faire un chapitre. Est-ce que la rencontre doit être égalitaire ou symétrique pour être une vraie rencontre? En fait, je crois pas.
Il n'y a pas forcément cette idée que on ne reçoit rien si on ne donne rien.
Exactement. Ouais. Non, on peut recevoir beaucoup sans rien donner. On peut surtout donner beaucoup sans rien recevoir. Et c'est pas grave. Vous savez, tant qu'on se nourrit, on n'est pas obligé d'exiger une symétrie.
Moi, je vous dis mille merci, Charles Pépin.
Merci beaucoup.
Beaucoup de vous être prêté.
Vous m'avez fait revivre cette expérience qui était en fait une expérience qui m'avait beaucoup plu par le passé, mais que j'avais oubliée.
Ouais, c'est un plaisir, en tout cas, d'avoir pu partager ce moment-là avec vous et avec les auditeurs de France Culture, Rachid Santaki.
Merci Olivia et merci Monsieur Pépin. Merci aussi merci. Pour ces ondes, pour ce rayonnement.
Oui, c'est ça. Émerveillement, voilà, exactement. Qu'on a pu partager avec vous. Je rappelle donc que votre nouvel essai a paru le 16 janvier. C'est chez Alary Édition et il se nomme La Rencontre, une philosophie. Merci beaucoup à vous, Charles Pépin. Merci.
Merci, bon week-end.